Vous écoutez
RMC. RMC, 19h30, 20h30, Bartoli Time, Georges Quirino,
Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes, mes chers auditeurs. C'est bien évidemment Bartoli Time. Alors, un Bartoli Time à l'heure américaine, doublement, j'ai envie de vous dire, car oui, je suis en direct de Miami. Je vais tout vous raconter de la fin de ce Miami Open assez historique, parce qu'il y a eu un double sunshine du côté féminin pour Aryna Sabalenka et Yannick Sinner va tenter de faire la même chose. Et puis, à l'heure américaine, parce qu'on est quasiment en mode Coupe du Monde avec ce France-Colombie ce soir. Il y a eu déjà eu également ce France-Brésil. RMC sera bien évidemment en direct des États-Unis avec nos envoyés spéciaux sur place. On aura des champions du monde après avoir été champion olympique et champion d'Europe. On sera avec Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry qui, encore une fois, nous ont éblouis par la qualité de leur patinage qui est absolument exceptionnelle. Et puis, c'est le moment où j'accueille celui qui sait à peu près tout faire. Du patin à glace, du tennis et du foot. C'est Georges Quirino. Bonsoir Georges, comment vas-tu?
Je me reconnais tout à fait dans cette définition et je te remercie, ta visée juste. Et j'aime bien le fait que tu penses qu'on est tous au courant de ce qu'est le Sunshine Double.
Ah oui, si le Sunshine Double, écoute.
Voilà, oui, c'est quand tu gagnes Indian Wells et après tu gagnes Miami,
avec
les
Miami.
Deux grands tournois.
C'est très rare.
Ce qu'a fait Sabalenka et ce que va essayer de faire Yannick Sinner. Effectivement, on va en parler avec toi dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez venir au 32-16 évidemment pour participer les supporters de l'équipe de France notamment, les supporters, les fans de tennis également, puisqu'on va en parler dans un instant. Mais d'abord, donc tu l'as dit, c'est une émission à l'heure des États-Unis.
RMC.
Queen Bartoli on tour.
Oui, j'adore ce jingle. Il fallait qu'il soit de retour.
C'est un jingle qu'on avait mis. Ah, attends. Ben là, c'est attends, mais c'est. On to Miami.
Miami.
Voilà. Eh oui, c'est Miami. On a mis à jour mon jingle favori qu'on avait créé pour lors de ton passage à l'US Open. Et on s'est dit que c'était l'occasion de le ressortir. Il y a toujours une bonne occasion pour le ressortir. Marion, tu es à Miami effectivement parce qu'il y a le Masters 1000 sur place. Il y a le WTA 1000 également. Les garçons et les filles sont dans le Hard Rock Stadium, le stade des Miami Dolphins en NFL, en football américain.
Sur la piste du Grand Prix de Formule 1.
Et oui, parce que le Grand Prix de Formule 1 est à côté. T'étais quoi, sur la ligne de départ là, avec le drapeau à damier et
j'étais
tout.
Sur la grille, ouais. Exactement, j'étais sur la grille.
Mais tu sais que le Grand Prix, c'est dans un mois.
Mais oui, mais bon, tu vois, je commence à avoir tellement de connaissances en Formule 1, on me prend pour faire des reportages F1, tu vas voir.
Bah ouais, c'est ça. Bah écoute,
je vais t'étonner.
Repère tout et donne des informations, je sais pas, à Pierre Gasly, Isaac Hadjar qui vont arriver dans un mois. Je rappelle
que Kimi Antonelli
a gagné ce matin à 19 ans, il est le plus jeune leader du championnat et que Max Verstappen, on a un peu marre de la Formule 1. On aura l'occasion d'en reparler parce que la saison est longue. Mais donc, le tennis, on accueille ton meilleur ami. Eric Salieu, notre voix du tennis, nous rejoint. Salut Eric.
Salut Marion, salut Giorgio.
Salut.
Ouais, how are you? Ah pardon, non, aux États-Unis, oui, pardon.
Ah, c'est n'importe
oui, plutôt,
quoi,
oui.
Cette émission. Non mais Mario, alors c'est vrai que ce qu'on aime avec toi, c'est que tu nous emmènes un peu dans les coulisses du circuit, notamment parce que c'est assez rare.
Ah, ben là,
voilà, le circuit de tennis, c'est un milieu un peu fermé. Parfois, raconte-nous juste à quoi ça ressemble, peut-être.
Dis-nous en quoi c'est vraiment pas beau ce site.
Non, alors justement, l'année dernière, franchement, j'avais pas eu une très bonne impression. Cette année, ils se sont énormément améliorés. Bon, tout d'abord, hier, la finale s'est jouée à guichet fermé, c'était plein à craquer. Il y avait une ambiance extraordinaire. Alors, il y avait une finale aussi de rêve, bien évidemment, entre Aryna Sabalenka, la numéro mondiale, qui est très, très populaire dans le monde entier, j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, la héroïne locale avec Coco Gauff, qui a grandi en Floride du Sud, qui habite pas loin, qui d'ailleurs rentre chez elle tous les soirs après ses matchs et dort à la maison. Donc, c'était vraiment la finale idéale. Mais ils se sont beaucoup améliorés. Il y a de plus en plus de monde. Il y a un engouement qui est certain. Je trouve qu'ils ont amélioré la manière dont ils ont arrangé, on va dire, la partie extérieure du court principal, qui est donc à l'intérieur de ce Hard Rock Stadium. Tu l'as dit, Georges, qui est donc un stade qui accueille normalement les matchs de NFL, qu'ils transforment pour la partie du tennis. Ça a été fait les années précédentes, mais en revanche, les années précédentes, ils avaient du mal à faire que le reste du stade, l'enceinte, soit vraiment accueillante pour les spectateurs. Et cette année, ça a été révolutionnaire là-dessus.
Ils sont comment les spectateurs de tennis populaire. Aux États-Unis? Parce qu'on va aller voir les spectateurs de football, de soccer, à Washington, tout à l'heure. En tennis, ils sont comment les Floridiens?
Écoute, ils sont très enthousiastes, mais il y a beaucoup de Brésiliens ici. Et comme le fiancé d'Aryna Sabalenka a des origines brésiliennes, il y avait beaucoup brésilien qui l'a supporté. Les gens, bien évidemment, étaient aussi à fond pour Coco Gauff. Donc, ils faisaient avec beaucoup de pancartes. Il y avait énormément d'enfants, énormément de jeunes. Et ça, ça fait très plaisir parce qu'on sait très bien que, bah, on avait d'ailleurs l'image, hein, de Coco Gauff petite, alors à l'US Open, dansant à l'US Open et ensuite remportant ce tournoi. On sait que aussi, c'est parce que des jeunes filles vont voir ces grandes championnes évoluer sur un court tennis qu'elles vont avoir envie de faire pareil. Donc, c'était très familial, très joyeux, très festif. Mais quand même connaisseur, respectueux aussi d'Arina Sabalenka. J'ai eu la chance d'interviewer sur le terrain. Elle était bien évidemment aux anges d'avoir fait le Sunshine Double. Je vais le répéter. Seulement la cinquième joueuse de l'histoire à l'avoir réalisé, parce que Steffi Graf l'avait fait, Kim Clijsters en 2005, Victoria Azarenka en 2016 et Iga Świątek en 2022. Donc c'est un exploit absolument historique qui s'est déroulé. Ouais.
C'est la numéro 1 mondiale, effectivement. Alors elle avait été battue par Rybakina en finale de l'Open d'Australie, on le rappelle. Mais donc c'est vrai
que c'est le match qu'elle a perdu de l'année.
Elle est le visage du circuit féminin. Donc victoire 6-2, 4-6, 6-3 face à Coco Gauff. Et comme tu l'as dit, tu l'as interviewé sur le court au micro de Sky Sport, hein, pour qui tu collabores également. Après sa rencontre, on l'écoute.
Je savais que Coco Gauff était une battante et qu'elle allait tout donner jusqu'au bout. Elle a joué incroyablement bien, mais j'ai fait quelques erreurs de force dans la dernière partie et je lui ai donné ce set. Mais je me sentais vraiment forte dans ma tête. Je savais que je faisais tout correctement. C'était l'affaire de quelques points et je me disais de me concentrer pour essayer de faire mieux la prochaine fois. C'était ça ma mentalité pour le troisième set.
Non, mais pour nos auditeurs et auditrices qui écoutent, vous avez écouté Arina Sabalenka, c'est une personnage charismatique qui, que je disais, qui incarne le circuit, Marion, franchement.
Oui, absolument. Elle a beaucoup évolué dans sa manière de gérer les matchs à haute tension, et je le disais ce matin d'ailleurs dans mon analyse sur Sky Sport, elle a perdu deux finales de Grand Chelem contre Coco Gauff. Elle pourrait avoir aujourd'hui deux grands chelems de plus. Celui de Roland-Garros l'année dernière, on s'en souvient, et celui à l'US Open. Et les deux fois, elle menait dans les matchs, elle s'est fait rattraper par Coco Gauff qui remettait beaucoup de balles et elle avait commis trop de fautes directes. Hier, quand elle perd le deuxième set, franchement, on peut se dire qu'éventuellement, on peut avoir un bis repetita. Et elle est arrivée à se calmer, à repartir dans le troisième set. Elle a cette forte personnalité, elle est extrêmement engagée lorsqu'elle est sur le terrain. Ça fait du bruit, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Et moi, franchement, j'adore la voir jouer parce que on est attiré par cette personnalité où elle est elle-même, elle cherche pas à jouer un rôle, elle est elle-même, elle est telle qu'elle est en dehors du terrain, elle l'amène sur le terrain, elle vient avec son chien, elle vient avec son fiancé, elle vient avec 15 personnes et elle le revendique, elle est heureuse de le faire d'ailleurs dans son entretien d'après-match, elle a dit il va falloir étendre les player box pour moi parce que j'ai avec trop de personnes, mais elle a cette personnalité effectivement extravagante, les gens l'adorent, elle est très suivie sur TikTok, très suivie sur les réseaux sociaux, elle fait ses danses, elle vous invite dans sa vie en fait et vous la suivez et franchement moi j'adore la voir jouer, j'adore sa personnalité, j'adore l'interviewer.
Eric Salio,
dis-moi Marion, elle est venue aussi avec sa bagouze. Elle est fiancée. Est-ce que tu as pu estimer la qualité du diamant?
C'est quoi?
Est-ce que
elle est fiancée, elle a une bague de fiançailles, c'est ça?
Elle joue avec, je crois même.
Elle joue avec et c'est un 12 carats.
Ah, moi j'avais entendu 16. C'est pas très bonne là.
C'est quoi? Elle joue au tennis avec une bague qui vaut des milliers de dollars?
Non, c'est sûr que c'est pas 16. En fait, elle voulait un nombre de carats et elle a eu 2 carats en dessous. Donc je sais plus si elle voulait 16, elle a eu 14. Ou elle voulait 14, elle a eu 12. Mais voilà, c'est l'explication. Donc c'est sûr déjà que c'est pas 16. Ça, c'est une information fausse. Encore une fois d'Eric. Donc on va le préciser. Mais je crois que c'est 14 de mémoire. Elle a eu 2 carats en dessous. Mais c'est surtout qu'elle est très heureuse maintenant de dire à chaque fois mon fiancé.
Elle était jalouse d'avouer.
C'est vraiment le.
Moi, j'ai une très belle bague de mariage.
L'info bling bling. Allez, on reste les pieds sur terre, les amis, s'il vous plaît, pour les gens comme nous. La quinzaine, évidemment, à Miami, parce que c'est une compétition qui dure très longtemps. Hein. C'est un des Masters 1000 comme Indian Wells qui se joue sur 2 semaines. A été marqué notamment par la performance de Arthur Fils, qui, après 8 mois d'absence, on rappelle, pour sa blessure au dos, revient vraiment très fort. Hein. Il a fait finaliste à Doha, face à Alcaraz. Là, donc, il arrive pour la première fois de sa carrière en demi-finale. D'un Masters 1000. Battu par Jari Leska qui sera face à Sinner tout à l'heure en finale. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire, Marion, de la demi-finale de Arthur Fils?
Écoute, c'est une magnifique performance, surtout la manière dont il est arrivé à remporter ce tie-break du troisième set contre Tommy Paul, où il était mené 6-2. Il a eu 4 balles de match à défendre. Il a complètement électrisé ce court central de Miami en night session. Il était quasiment en transe quand il a remporté ce match. Après la période qu'il a traversée, le nombre de blessures qu'il a eues, c'est une victoire qui est extrêmement importante dans sa progression actuelle. Ça lui montre qu'encore une fois, il est plus très loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau. Donc ça, c'est bien évidemment un énorme pas en avant. Après, pour en avoir un petit peu discuté avec son papa par message, Effectivement, il y a une petite déception pour lui sur l'enchaînement sur la fin de tournoi, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas facile d'enchaîner lorsqu'on a été blessé pendant longtemps, parce que forcément le corps a moins l'habitude de récupérer sur des gros matchs à haute intensité, à la fois sur le plan physique, mais surtout sur le plan nerveux, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est non seulement de récupérer sur le plan physique, mais surtout d'être prêt mentalement à un nouveau défi. C'est là où je trouve justement Sabalenka Ossiner exceptionnel là-dedans. Mais pour moi, c'est que du positif. Il va repartir avec des points engrangés. Il avait quart de finale à défendre. Au final, il fait mieux cette année en faisant demi-finale. Il va pouvoir maintenant rentrer dans une période où il aura, après Roland-Garros, plus aucun point à défendre. Donc, que du bonus et que des matchs à aller chercher. Mmh. C'est que du positif pour Arthur.
Eric,
il y a eu un débat avec beaucoup de consultants en France, et notamment Nicolas Escudé, qui est intervenu chez Stephen Brun. C'est vrai qu'Arthur a un jeu très énergivore. Et quand il a trop consommé d'énergie, c'était le cas contre Tommy Paul, parfois il se retrouve avec 2, 3, 4% en moins, et on a l'impression que ça fait toute la différence dans son jeu, Marion. Est-ce que tu crois que ça peut se corriger assez facilement?
Bon, je suis pas totalement d'accord sur son analyse déjà, mais bon, ça c'est pas très grave. Ensuite, sur le fait que ça puisse se corriger, encore une fois, pour moi, c'est l'enchaînement des matchs dont il a besoin de pouvoir à nouveau les revivre. Et ça, c'est l'enchaînement des tournois qui vous le permet. Vous pouvez enchaîner les semaines d'entraînement, bien évidemment, en vous entraînant beaucoup. C'est quand même quelqu'un qui, pendant la période où il était en réathlétisation, s'entraînait entre 11 et 12 heures par jour. Donc les efforts, il les a fait. Il s'est quasiment entraîné comme personne ne s'est entraîné sur le reste du circuit, parce que tout le monde était en tournoi. Donc pour arriver aussi vite à regagner un niveau, c'est parce qu'il a consenti des efforts qui sont énorme. Donc déjà, je voudrais féliciter cela. Ensuite, les 3-4%, je veux dire, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde, lorsqu'il baisse de 5-6% ou 3-4%, quand vous jouez à des niveaux pareils, bien évidemment, ça fait une différence qui est importante. Mais je crois pas que ça soit tout d'abord uniquement unique à Arthur, et je pense que au vu de sa progression et déjà des corrections qu'il a apportées à son jeu, il sera parfaitement en capacité de pouvoir continuer à s'améliorer et continuer à faire encore mieux sur les mois à venir.
Fan de tennis, évidemment, venez au 32-16 hein, pour réagir, pour poser vos questions à Marion, pour poser vos questions à Eric hein, aussi. Hein. Voilà, il est là, Eric, pour ça aussi. Tiens, on a Lionel. Bah
déjà, il a les carafos de la bague, donc j'ai envie de te dire, pas trop, Eric.
Non, mais donc on a la finale dans quelques instants entre oui. Yannick Sinner.
Il pleut
et,
là, Miami. Donc on va avoir un petit délai.
Tiens, on a Lionel, fan de tennis habituel sur RMC, un habitué qui nous appelle pour Bartoli Time. Salut Lionel.
Bonsoir Lionel, bienvenue.
Ouais, on vous appelle de Mougins. Les équipes ont monté 3 équipes, les gars.
Ah, mais c'est les fans.
Et oui, c'est le match par équipe.
Et oui, ça va se terminer. 3 équipes en régional et 2 en prénat.
Félicitations.
Bon, Lionel, t'as une question pour Marion peut-être pour la finale des Sinner contre l'ESK, par exemple, ou sur Arthur Fils? Lionel?
Oui, ah pardon, vous avez perdu.
Pardon. Oui, tu t'écoutes, Lionel.
Oui, j'avais une question. Est-ce que tu penses, que toi qui la côtoie un peu, que Arthur Fils, qui a fait un... Bon, il s'était explosif, il a fait un super parcours, super saison. Est-ce que sur terre battue, parce qu'il est bon sur terre battue normalement, oui, est-ce qu'il peut enchaîner ou est-ce qu'il va devoir adapter son jeu, parce qu'il peut pas être tout le temps explosif, surtout sur terre, et ça va être plus qu'énergivore. Est-ce que tu penses qu'il a la capacité de continuer sa saison?
Écoute, oui, je pense qu'il a la capacité. Après, je pense qu'il faut qu'il fasse des choix dans sa programmation. Je pense qu'il faut qu'il s'octroie des périodes où il va pouvoir se réentraîner, refaire un petit bloc physique pour justement avoir une caisse physique plus importante. Parce qu'en fait, là où ça va jouer vraiment pour lui, c'est sur Roland-Garros, où les matchs sont plus longs, les matchs sont potentiellement un sac 7, où en plus, il va y avoir le public, l'énergie du public. Donc, tout ça, c'est très consommateur d'énergie, à la fois physique, mais aussi surtout sur le plan mental. Donc j'espère qu'il va pas trop jouer justement avant pour arriver avec le maximum d'énergie disponible dans son réservoir pour Roland-Garros. Mais au vu de ce qu'il a été capable de faire par exemple à Monte-Carlo l'année dernière, où rappelle-toi il était à quelques points d'aller battre Carlos Alcaraz, alors on est à quelques points, on est à la fois prêt et à la fois loin, mais évidemment de battre ces grands joueurs, parce que c'est dans les moments importants des matchs qu'ils sont capables de sortir leur meilleur jeu. Mais je crois qu'il est parfaitement en capacité de très bien jouer sur toutes les surfaces. Il a très bien joué déjà sur gazon à Wimbledon. Il a bien joué sur terre battue. Il joue bien sur dur. Après, ça va être surtout l'enchaînement, j'espère, pour lui au niveau, encore une fois, de sa blessure. Parce que sa blessure au dos, on espère que ça va pas se réveiller avec l'enchaînement des matchs. Donc, je dirais être prudente sur le nombre de tournois à jouer pour arriver en pleine capacité à Roland-Garros, qui va être vraiment le tournoi objectif pour lui.
On a tellement envie de s'enflammer. Marion,
n'oublions pas qu'il a quand même 400 points à défendre avant le tirage au sort de Roland-Garros, et que ce serait bien qu'il soit tête de série. Donc je comprends ta théorie, mais il va pas pouvoir faire beaucoup d'impasse parce qu'il y a vraiment des points à aller chercher, parce que ce serait quand même dommage qu'ils prennent Alcaraz ou Sinner au premier tour à Roland, parce que il va peut-être lui manquer 10 ou 15 points, quoi.
Je remercie Lionel de nous avoir appelé au 32-16, et on salue évidemment tout le club de tennis de Mougins, enfin, bon, tous ensemble, tous ensemble pour écouter Martin Time, c'est incroyable.
Les montées de Mougins, c'est rien par rapport au titre de champion de France du TC16 de Stéphane Brun.
Ah non, mais
on va terminer sur la partie des points, parce que ça me paraît important. Je pense que c'est quand même plus important d'arriver en forme en Roland Garros avec assez de matchs, certes, mais être complètement fatigué avec plus aucune énergie, parce que la chance de tirer Alcaraz ou Sinner, ça reste quand même que toujours une chance sur 128.
Juste rapidement, voilà, un petit mot sur la finale Sinner-Lechka aujourd'hui. Alcaraz c'est un trap assez vite dans le tournoi de Miami. C'est vrai qu'on les oppose souvent tous les deux, alors que Sinner peut enchaîner là face à l'invité surprise. Sinner, ça va beaucoup mieux. On était inquiet peut-être, ou après l'Open d'Australie, il n'y a plus du tout d'inquiétude.
Plus du tout d'inquiétude, il a remporté 32 sets consécutifs sur les Master 1000, puisqu'il a remporté le Master 1000 de Paris Indoors, donc sans perdre un set, celui de Indian Wells sans perdre un set, et là il est en finale sans perdre un set. Donc l'enchaînement est effectivement absolument prodigieux. Il a dit lui-même dans son interview d'après défaite contre Jakub Mencik à Doha, il commençait à jouer un petit peu trop défensif et en fait à trop ralentir sa vitesse de jeu, parce qu'on lui avait parlé de beaucoup de variations et d'introduire des variations dans son jeu, et en fait il s'était un petit peu perdu sur sa puissance de balle, on va dire, dans les échanges du fond du court, qui sont quand même la partie principale pour lui pour remporter ses matchs. Et puis il a bien évidemment parfaitement corrigé depuis, puisqu'il est sur cette magnifique enchaînement de victoires.
Bon, Eric,
J'espère qu'on aura une belle finale. J'espère surtout qu'elle va se jouer, parce que je sais pas.
Mais on a Mario sur place.
Là, il y a eu une petite averse. Il y a eu une petite averse. On était en plein pendant la finale du double féminin qui a lieu juste avant la finale des garçons, mais ça va se jouer. J'ai eu James Blake, qui est le directeur du tournoi, avant de prendre l'antenne.
Incroyable.
C'est bon, normalement, ça doit se finir aujourd'hui.
Bon, ils mettront le toit.
Il n'y en a pas.
En tout cas, il n'y en a pas de toit.
Et voilà, Bartoli, vous savez, c'est votre émission qui est au cœur du circuit de tennis. Il n'y en a pas d'autres, des émissions comme ça, hein, qui sont aussi proches des joueurs, des stars. Vous les entendez habituellement dans l'émission. Merci Eric. On te retrouve très vite. Tu vas à la
Look
Monte Carlo.
Look at the ring. Notamment. Ciao, ciao.
Look at the ring. Incroyable. Et évidemment, venez au 32-16.
En plus, il ne le dit pas avec l'émission. Le bon accent, mais bon, c'est pas grave.
De toute façon, Mario, avec toi, il n'y a jamais un bon accent. On a bien compris.
Je vais commencer à.
Dans un instant, nos invités exceptionnels. On sera avec Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, champion du monde après avoir été champion olympique il y a un mois. On écoutera aussi Émilien Jacquelin, tiens, figurez-vous, le biathlète double médaillé qui a décidé de se mettre au cyclisme. On l'écoutera, témoignage exclusif pour RMC. On en dira un mot tout à l'heure, et puis on va aller bien évidemment tout de suite à Washington pour France-Colombie. Ce soir à 21h, match des Bleus à 3 mois de la Coupe du Monde. A tout de suite dans Bartoli Time sur RMC.
RMC Bartoli Time. Georges Quirino,
Marion Bartoli.
Vous êtes toujours bien dans Bartoli Time, il est 19h49, alors vous étiez avec moi en direct de Miami. Nous allons partir en direct. D'où ça? Dis-moi tout aux États-Unis.
Washington D.C. Côte Est dans un instant, même si on ira faire des tours à Prague aussi dans un instant pour retrouver Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, champion du
international.
Monde. On est même internationaux, effectivement, dans cette émission. J'accueille depuis le stade de Washington à 3 mois de la Coupe du Monde au RMC Radio officiel. Vous ne ratez rien, on est déjà en mode mondial et on a sorti des trompettes, j'ai l'impression, pour Jean-Louis Tour.
Ah,
c'est comme ça que tu nous appelles.
Je pensais que c'est notre réalisateur qui mettait une trompette pour nous accueillir. Je trouvais ça un peu insultant, par million. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est quoi? Il y a la fanfare derrière vous, les gars. Salut Flo.
Mais oui.
Alors,
Jean-Louis. Salut Marion. Salut Georges. Alors, on est placé dans un endroit où on commentera plus jamais de notre vie. C'est-à-dire qu'on est sous l'un des deux écrans géants. Alors, écran géant dans les stades. Donc, c'est un stade de foot US normalement.
C'est
donc,
Washington Commanders.
Voilà. Il prend quasiment toute la largeur du terrain, l'écran géant. Et donc, on est juste à côté d'énormes enceintes. Donc, voilà. On est derrière un but, sous l'écran géant, sous les enceintes. Mais on est là.
Voilà, c'est ça. On est dans tous les stades américains. On est à Miami dans le stade des Dolphins. On est à Washington dans le stade des Commanders. Voilà, c'est Bartoli Time en mode NFL. Marion, avec Jean-Louis et Flo.
Oui, Jean-Louis et Flo. Alors, Didier Deschamps va jouer avec une équipe complètement remaniée par rapport à la victoire face au Brésil. Pour vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont vraiment une carte à jouer ce soir, ou Didier a sa liste dans sa tête, et même s'il nous dit l'inverse, la liste, elle est quasiment actée?
Bah écoute, c'est un débat qu'on a tous là depuis 48 heures et même depuis l'après-match contre le Brésil, parce que effectivement Didier Deschamps a tout de suite dit je change tout contre la Colombie. Alors après, chacun aura son petit feeling. Je pense qu'il y a des joueurs comme Marcus Thuram et Magnès Atliouche par exemple qui peuvent jouer gros, parce qu'il y a un absent majeur, on va dire, offensivement, c'est Bradley Barcola. Donc c'est bien d'avoir des armes offensives, mais même si c'est devenu un coach et lui en sourit maintenant, qui fait du hurra football presque, hein. Il dit moi je suis un entraîneur offensif, vous savez, Didier Deschamps, oui. Donc c'est bien.
Mais en même temps, avec l'attaque qu'il a,
oui, il est obligé, mais en même temps, oui, il peut pas prendre tout le monde. Il peut pas prendre tout le monde. Oui. Donc, allez, on peut dire que Atliouche, Marcus Thuram font partie des joueurs offensivement qui peuvent marquer des points ou peut-être en perdre. On verra selon les performances, parce que j'imagine pas un Désiré Doué ou un Ryan Cherki être remis en cause par rapport à la liste de titulaires. Après, derrière, Jean-Louis, c'est une autre histoire quand même. Il y a des joueurs qui partent de loin.
Bah oui, parce qu'il y a ces absents, donc Saliba, Koundé, Upamecano qui donc a quitté le rassemblement après son expulsion puisqu'il est suspendu ce soir. Donc bah on a déjà en tête les premières alternatives à tous ces joueurs là. C'est les places d'après qui restent à prendre. Moi je pense que Maxence Lacroix peut-être être, oui, le grand vainqueur du rassemblement s'il est bon ce soir. Déjà Didier Deschamps lui avait montré une sacrée marque de confiance puisqu'il allait rentrer quoi qu'il arrive à la place de Konaté. Il y a eu l'expulsion d'Upamecano qui a fait changer les plans, mais il allait rentrer quand même à ce moment-là. Donc c'est quand même que Deschamps voulait lui envoyer le message qui comptait sur lui. Et puis sur les latéraux, bah il y a chantier, parce que les deux titulaires a priori ont des difficultés. Alors à droite c'est Koundé qui est pas au mieux au Barça, et à gauche on sait pas qui est le titulaire, mais ce qui est sûr c'est qu'aucun des deux ne se dégage entre Lucas Digne et Théo Hernandez.
On va écouter Didier Deschamps. Tiens, vous l'avez interrogé hier en conférence de presse, est-ce que il y a des joueurs qui peuvent gagner leur place ce soir? On l'écoute.
Non, ils jouent pas leur place. Non. Je vais pas avoir d'idée arrêtée parce que j'ai pas toutes les données encore. Si tout le monde est disponible, je l'espère, je ne pourrais pas prendre tout le monde. Le nombre exact, je vous l'ai dit, à partir du moment où je considère qu'on est tous les postes, j'ai trois options, ça me suffit. Est-ce que ça sera 24, 25 ou 26? Même si en prenant 26, je sais bien qu'il y en a qui mériteraient d'y être et qui n'y seront pas. Donc ceux qui sont là, ils ont tout à gagner, pas tout à perdre. C'est pas bien de devoir tout à perdre. Ce qu'ils feront, ça ne va pas les condamner non plus.
Bon, tu peux tout gagner, oui, mais pas tout perdre, mais pas les condamner, mais en même temps, on ne sait pas.
C'est quand même un peu.
ce qui est sûr, c'est que les trois, enfin en tout cas les joueurs qui n'auront débuté aucun des deux matchs, bon, le message envoyé, il n'est pas dingue. Hein. Kamavinga, oui, ou Kolo Muani, pour ces deux-là, c'est. Bon, il reste encore du temps au club, etc., pour montrer, mais ils ne partent pas favoris. Quoi.
Marion. Kamavinga est quand même un joueur qui a une polyvalence qui peut lui servir. C'est que dans cette volonté de la part de Didier Deschamps de tripler les postes, alors ça ne veut pas dire qu'il va prendre trois latéraux côté gauche, trois latéraux côté droit, mais il veut s'offrir une troisième solution. Par exemple, un Zaïre Emery a un avantage, c'est que maintenant il peut dépanner, on va le dire ainsi, côté droit. Un Kamavinga pourrait dépanner côté gauche, donc peut-être qu'il a cet argument-là. Celui effectivement qui n'a pas débuté là, c'est Kolo Muani. Voilà, c'est aussi un joueur qui a quand même un avantage, c'est que dans le groupe c'est quelqu'un qui vit très bien, qui pose jamais de problème. Donc c'est marrant de cocher certaines cases, mais en même temps de pouvoir t'inquiéter parce que tu n'as peut-être pas le temps de jeu nécessaire sur ce qui est la dernière tournée et surtout le dernier match avant la liste qui sera le 14 mai. Donc ça a été bien signifié hier par Didier Deschamps suite au report du match pour le Paris Saint-Germain.
Alors Jean-Louis et Flo, j'aimerais évoquer avec vous le cas d'N'Golo Kanté qui va être donc capitaine aujourd'hui. Il a signé au Fenerbahçe pendant le mercato d'hiver. Il revient à un excellent niveau. La preuve que sa présence au Mondial ne fait aucun doute pour vous. Alors on sait qu'il a raté la Coupe du Monde en 2022 blessé et que ça a été un gros manquement pour Didier au milieu terrain. Est-ce que pour vous c'est absolument certain qu'il sera au Mondial avec l'équipe de France?
Oui, je pense. Surtout, on parle de liste de 26, hein, donc ça élargit encore un peu plus les limites qu'on pouvait fixer auparavant. Je pense que
Et il était à l'Euro.
Il était au dernier Euro, exactement. Je pense que par rapport au match précédent, au match de qualif et tout, il y a vraiment. On s'est beaucoup basé sur le duo Manu Koné-Tchouaméni, parce que Rabiot a eu peut-être des difficultés, des blessures, etc. On doit rajouter donc Rabiot. À mon avis, ces trois-là vont se partager les deux places de titulaire. Et Kanté, il sait qu'il sera en recours, mais Deschamps, il sait qu'il a besoin et de joueurs d'expérience et de joueurs de groupe. Ce qu'on a dit sur Kolo Muani s'applique aussi sur N'Golo Kanté, qui en plus prend une petite petite stature de leader. Alors à l'échelle d'N'Golo Kanté quand même, hein, qui est quand même quelqu'un de très timide.
Bah, il était
on l'a vu hier en conférence de presse. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On l'a vu hier en conférence de presse, plutôt bavard à l'échelle d'N'Golo Kanté. Donc ça montre bien que ce rôle de leader lui tient à cœur et qu'il va l'endosser avec plaisir.
Un peu gêné quand il est questionné sur le capitanat, parce que il peine à dire oui, effectivement, j'aurai le brassard, alors qu'il le sait très bien. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il a envoyé en conférence de presse. Mais c'est vrai, comme le dit Jean-Louis, c'est un signal supplémentaire de lui donner le brassard à ce moment-là. Évidemment, il y a un capitaine indétrônable, c'est Kylian Mbappé, mais Didier Deschamps, il aime bien s'appuyer sur des visages, des caractères, des profils qu'il maîtrise bien. Ce sourire d'N'Golo Kanté, c'est pas uniquement une légende, c'est vrai qu'il apporte quelque chose dans le groupe. Et puis, dans une Coupe du Monde qui va être marquée par la chaleur, avoir l'énergie d'un N'Golo Kanté sur les 30-35 dernières minutes, peut-être un troisième match de poule, enfin on sait que l'expression est un peu galvaudée, mais c'est un gars sûr de Didier Deschamps. Avec tout le respect qu'on a pour N'Golo Kanté, tu sais avec lui que ce sera fiable, il n'y aura pas de surprise, et donc il coche les cases là encore pour être au rendez-vous.
Ça aussi c'est une expression qu'on utilise assez souvent, il coche toutes les cases effectivement dans le foot.
Non, mais c'est
on
vrai.
Adore le dire,
il bouge toujours le maillot, il fait toujours des performances.
Ah bah bien sûr.
Il fait toujours des performances impressionnantes. Je n'ai jamais quelqu'un qui pose aucun problème dans le vestiaire. Il est adoré de tous.
Ouais, oui, bah ça
c'est quand même, tu vois, il a un palmarès absolument énorme, ouais. Bien sûr.
Didier Deschamps qui est en train de devenir un coach offensif, on a l'impression, oui. Peut-être aux États-Unis. En tout cas, c'est l'un des sujets. Il y avait quatre joueurs offensifs, on rappelle, face au Brésil, Kitike, Dembélé, Olise, Mbappé. Tiens, vous l'avez interrogé sur ce sujet, on l'écoute, Didier Deschamps.
Oui, mais bon, si vous dites totalement l'inverse, c'est la meilleure équipe du monde, on a battu le Brésil, on est encore plus favori, qu'on a un potentiel offensif important, qu'on a une très bonne équipe, oui. Mais il y en a d'autres aussi. Et l'ambition, on va l'avoir, bien évidemment, mais nous aurons des étapes à franchir et je vais pas être plus pragmatique que pragmatique, mais nous pensons déjà à ça avant de penser. Mais de par ce que l'équipe de France a fait et ce qu'elle est capable de faire, on soit parmi les équipes qui puissent légitimement penser, oui, mais avant d'arriver là-haut, la route est longue. Il y a une étape en plus.
Est-ce que vous voyez, les gars, le discours de Didier Deschamps un petit peu évolué sur l'accointance pour l'offensive, notamment?
Est-ce que je peux dire oui et non?
Bah, tu fais ce que tu veux.
On peut commencer comme
non.
Ça.
Non.
Écoute, non, mais en vrai, c'est ça. Non, l'évolution, c'est vrai quand même, c'est les quatre joueurs offensifs. Alors, même si à chaque fois qu'on dit ça, lui, il rappelle qu'à la Coupe du Monde 2022, déjà, il y avait quatre joueurs offensifs avec Antoine Griezmann, Dembélé, Mbappé et Giroud. Bon, il se trouve que Griezmann jouait milieu de terrain à l'époque. Et là, on a quatre vrais joueurs offensifs qui ont un peu moins ce profil travailleur. Donc, effectivement, ça a changé. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait quand même près d'un an qu'il y a ces quatre véritables joueurs offensifs. L'autre truc, et pourquoi je dis plutôt non dans est-ce qu'il a changé, c'est qu'il va quand même demander un énorme boulot défensif aux quatre de devant.
Exactement.
C'est le deal avec eux. C'est-à-dire que Deschamps, il a dû dire, écoutez, on a un gros potentiel offensif, j'ai envie de m'appuyer dessus. Par contre, l'équilibre, ça passe par vous. Il faut que vous fassiez le boulot défensif à bloc. Ça tombe bien, puisque sur les quatre, ceux qui en club, enfin certains en club le font déjà. On peut penser à Olise avec le Bayern, à Dembélé avec le PSG. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Et Kitike aussi à Liverpool. Et puis Mbappé se met à le faire aussi. Ce qu'on a vu contre le Brésil, quand il mettait des coups d'épaule pour défendre. Bon, bah ça, on le voit pas forcément avec le Real. Donc si même lui s'y met, je pense que ce sera un système à quatre attaquants, mais version Deschamps quand même.
Ouais. Marion, ouais, on change pas comme ça du jour au lendemain. Il restera pragmatique, tu penses, Didier Deschamps aussi.
Non, mais ça, c'est quand même un changement de mettre ces quatre attaquants sur une durée significative. Et là, on a du mal à imaginer, Marion, que le premier match de la Coupe du Monde. Alors, il restera deux matchs amicaux, mais enfin, ça paraît clair que la Coupe du Monde va débuter avec ce système-là et les quatre offensifs tellement Olise s'impose dans le cœur du jeu que tout le monde peut interchanger un peu ses positions. Enfin, ça s'est imposé comme une évidence. Après, le petit bémol, c'est qu'on a vu des compètes avec Didier Deschamps où en cours de match, il est très pragmatique.
En cours de compète même.
C'est dur à dire, pragmatique pour.
Pragmatique. Ouais.
Il
est très pragmatique.
Pragmatique.
Et effectivement. Non mais je sais. C'est juste que le sélectionneur avait un peu du mal à le prononcer, donc on essaye de le faire pareil. Mais en cours de compète, souvent, il prend pas le temps de tergiverser. S'il voit que ça marche pas, tout de suite il échange. Donc peut y avoir cette pression, le parfum de la compétition qui éventuellement lui met un coup de pression et le fait évoluer. Mais on est à peu près sûr là maintenant, fin mars, qu'il va débuter à 4 offensifs parce que ça fonctionne quoi.
Mais ça fonctionne surtout parce qu'il y a des joueurs qui sont dans la forme de leur vie. Enfin, on a quand même Ousmane Dembélé qui est ballon d'or, on a quand même Olise qui marche sur l'eau, t'as Mbappé bien évidemment qui est un joueur exceptionnel, et t'as Ekitike qui performe aussi à Liverpool. Donc se priver de cette capacité offensive, ça serait ne pas utiliser la meilleure possibilité de gagner. Après, là où je rejoins totalement Jean-Louis, c'est qu'il va rester Didier dans son système effectivement de base, et on sait que c'est ça qui fait gagner, c'est-à-dire qu'il va demander d'avoir un repli défensif qui va être important, un travail défensif qui va être important. Et c'est pour ça que je pense que ces matchs de répétition étaient aussi pour lui très importants dans la manière dont ils vont débuter cette Coupe du Monde, parce que les joueurs devaient être en capacité de montrer qu'ils pouvaient faire ce travail-là. Donc je pense que là-dessus il est rassuré, mais pour moi, là où je rejoins totalement Jean-Louis, c'est qu'il va les obliger à faire ce travail défensif. Il sera en train de râler au bord du terrain si ça n'est pas fait par les joueurs, mais je pense qu'ils vont totalement adhérer à ce projet-là.
Gagner une Coupe du Monde avec 4 offensifs comme ça, mais il sort, c'est même plus par la grande porte, c'est que il aura ramené une deuxième étoile en tant qu'entraîneur, plus celle en tant que joueur, et il aura dit bon, vos débats sur le coach frileux que je suis,
troisième étoile du coup.
Deuxième étoile en tant qu'entraîneur, je disais, mais deux Coupes du Monde sur un mandat, si en plus il le fait avec un football attrayant, mais là il met fin à tous les débats, il dit au revoir, ciao, il s'en va comme un prince.
Les gars, n'oubliez pas que vous êtes dans Barcelona et que Marion ne vous ratera jamais si jamais il y a une prononciation qui ne fonctionne pas, ou un palmarès qui est un petit peu à côté, hein. Juste voilà, on est dans l'excellence ici.
Si on est dans l'excellence, Marion doit comprendre quand Flo fait une vanne en reprenant la façon d'articuler de Didier Deschamps.
Mais si tu veux, les vannes c'est pour Nicolas Cantelou, chacun son métier. Donc on laisse les vannes à Nicolas Cantelou qui fait très bien Didier Deschamps, et nous on essaie d'analyser correctement sans se moquer de la prononciation des autres. Voilà.
Désolé Flo,
ah ouais, c'est violent.
Ça tire à balles réelles par ici.
Soyons sérieux.
Métrage est barbare. Les amis, c'est aussi une répétition pour nous à RMC de voir comment ça se passe autour des stades aux États-Unis avant la Coupe du Monde. Alors on y était déjà pour la Coupe du Monde des clubs cet été. Et on a Arthur Perrault qui est autour de l'enceinte à Washington là pour nous. Salut Arthur.
Salut Georges, salut Marion, bonjour à toutes et à tous.
Ça ressemble à quoi là?
Non,
mais un match de foot, ça ressemble à quoi pour les Bleus là?
D'abord, c'est le fameux tailgate, comme on l'appelle ici aux États-Unis, c'est-à-dire ce rassemblement 3 heures voire 4 heures avant le début du match sur les immenses parkings qui entourent les stades. Et forcément que c'est impressionnant parce que là, c'est une marée de jaunes orangés colombiens qui se sont organisés depuis ce midi pour des immenses barbecues. J'ai même vu un DJ qui est venu exprès coller à une voiture sous un barnum pour mettre de l'ambiance auprès des supporters colombiens. Il y avait aussi les Français au milieu de tout ça qui essayaient de rivaliser avec des bons produits français à consommer avec modération, du cognac, du champagne. Ils sont là, ils essayent de rivaliser comme ils peuvent, mais c'est assez impressionnant. Et maintenant, je me trouve juste derrière Jean-Louis et Florent Germain, dans les coursives du stade, au milieu des dizaines et dizaines de stands de restauration, de bière aussi, toujours à consommer avec modération. Ouais. Et je suis avec Mickaël, supporter de l'équipe de France qui vient de Brest. Mickaël, ça t'impressionne de voir ce show à l'américaine là?
C'est un show à l'américaine, certes, mais on sent la connotation colombienne et le côté chaleureux, les Colombiens, les Colombiennes. Mais nous, on vient, on essaie de rivaliser avec le coq français. Il est fier, il représente ses couleurs, et on va pas avoir peur de cette marée jaune. On va les couler.
C'est une tournée qui sert de répétition générale. Okay. C'est une tournée qui sert de répétition générale, Mickaël. À quel type de match tu t'attends? Est-ce que peu importe le résultat, ça aura une influence sur ta vision de l'équipe de France avant la Coupe du Monde?
Naturellement, ça va être un clash latin ici avec les Colombiens, les Français. Ça va être chaleureux, il va y avoir du bon football, physique aussi. Mais j'ai envie de voir de la technicité de la part de notre équipe, et assurément on va se régaler. On a un beau temps. C'est juste une préparation avant d'aller chercher la troisième étoile.
Voilà, les supporters français qui vont tenter de donner de la voix au milieu des Colombiens cet après-midi.
Non, mais avec Flo et Jean-Louis qui vont donner de la voix aussi. Moi, je suis sûre qu'on va les entendre, nos supporters français. Oui. Alors, la France avait affronté la Colombie en mars 2018. Ouais. Et la France menait 2-0 et s'était inclinée 3-2 contre la Colombie. Ça n'avait pas empêché la France de remporter la Coupe.
Ah, vous ne l'aviez pas ça, Flo et Jean-Louis. Là, j'espère que vous l'avez noté.
Si, mais si, il l'avait. Ils sont plus forts. que moi. C'est pour ça que je les taquine, parce qu'ils sont plus forts que moi.
Il y a pas de problème.
Est-ce qu'on a les compos, les amis?
Absolument. Exactement. Mais en même temps, on les avait depuis hier, hein, depuis qu'on les a annoncés.
Oui. Mario, si les a depuis hier. Alors, s'il vous plaît. Que...
Bah, vas-y pour la compo française.
Allez, bah, c'est l'11 annoncé effectivement depuis hier, puisqu'il y avait une seule incertitude véritable. C'était la présence ou non dans le 11 de départ de Désiré Doué, parce qu'il souffrait un peu du dos. Il est bien titulaire. Donc, la compo de l'équipe de France, Brice Samba dans le but, Pierre Kaloulou à droite, Maxence Lacroix et Lucas Hernandez en charnière centrale, Lucas Digne latéral gauche. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, capitaine associé à Warren Zaïre-Emery. Donc au milieu de terrain, pas de Kamavinga d'entrée, et le quatuor offensif avec Rehan Cherki en 10 dans le cœur du jeu, entouré à droite de Magnès Atliouche, à gauche de Désiré Doué et à la pointe de l'attaque des Bleus, Marcus Thuram.
Et juste sur la Colombie, je ne veux pas vous faire très tout bien. Le 11, mais sachez que c'est le meilleur 11 possible, c'est quasiment le même qui a joué contre la Croatie il y a quelques jours, avec donc James Rodriguez bien sûr le capitaine, même s'il n'a pas joué depuis un moment. Légende. Ça va être le deuxième match qui commence depuis 4 mois, et devant l'autre légende, ça va vous parler Flo et Marion, c'est Luis Suarez qui est là.
Luis
Diaz est bien là sur le côté, mais Luis Suarez, l'ancien Marseillais, qui a des stats exceptionnelles au Sporting, puisqu'il a mis 33 buts depuis le début de saison, il sera bien là titulaire.
Colombie-France à 21h sur un air de Shakira. La playlist est pas du caricaturale derrière vous pour ce France-Colombie. C'est super.
Bah Marion, tu sais pas si elle vient, Shakira. Toi qui as tes entrées chez les stars.
Elle va lui envoyer un message.
Qu'est-ce que tu as dit?
Est-ce que Shakira
peut être entendu?
Si Shakira est là, est-ce que tu peux te renseigner?
Oui.
Pour que Arthur Perrault.
À Washington. Mais là, je suis à Miami.
Est-ce qu'elle est au match?
Je peux pas être partout, je t'explique.
Ah ouais, mais d'accord. Ah d'accord, donc t'as pas toutes les infos en fait.
Je sais que David Beckham vient à Miami pour Pâques, et d'ailleurs j'ai voulu interviewer pour Bartolita, mais je le rate de quelques jours. Voilà.
À combien de numéros de téléphone es-tu de Shakira?
Ça m'énerve.
C'est ça la question.
Bon bah écoutez.
Ça m'énerve. Moi je suis déçu. À quelques jours près.
Ouais, écoutez, c'est pas très grave. Bon, merci les amis, on vous retrouve ce soir pour Colombie-France.
Voilà. Ce soir, à tout à l'heure.
Tout à l'heure. Ouais, mais pour nous c'est plus avec le changement d'heure. Vous êtes sur un autre décalage horaire.
Oui, mais soyons précis. Soyons
pragmatiques.
Tu nous laisses bien l'antenne dans 20 minutes, c'est juste ça ma question.
Je crois bien.
20 minutes tout pile.
Allez, à tout à l'heure, les amis. On vous retrouve évidemment pour le coup d'envoi de cette rencontre. Eh ben, dis donc, quelle ambiance à Washington. Il y a plus d'ambiance qu'à Miami. Hein. Dans un instant, on va revenir.
Là, parce que je t'ai pas mis le micro dans le stade. Là. Si je te mets le micro dans le stade, il va y avoir de l'ambiance.
C'est la folie. Dans un instant, on revient avec nos invités exceptionnels. Champion du monde hier, après avoir été champion olympique il y a un mois, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Baudry, nos danseurs sur glace, seront avec nous, invités exceptionnels. On écoutera aussi Emilien Jacquelin, le biathlète, qui va se mettre au cyclisme. A tout de suite dans Bartoli Time.
RMC, jusqu'à 20h30.
Bartoli Time. Georges Quirineau.
Marion Bartoli.
20h11, vous êtes toujours bien dans Bartoli Time sur RMC. Alors, nous étions à Washington avec Jean-Louis et Flo. D'ailleurs, surtout, ne ratez pas ce match de l'équipe de France avec eux ce soir, en direct donc de Washington, puisque RMC est la radio officielle de l'équipe de France et de ces mondiaux.
De la Coupe du Monde.
Bien évidemment, de la Coupe du Monde. Ils seront bien évidemment avec vous en direct sur place. Ça, c'est aussi exceptionnel ce que RMC vous propose. Mais tout de suite, nous allons parler de quelqu'un qui va changer de sport.
Exactement. Avant d'accueillir nos patineurs champions du monde, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry. Alors, on va dire un mot sur Emilien Jacquelin, le double médaillé olympique en biathlon à Milan. Souvenez-vous, l'or sur le relais avec une remontada incroyable et le bronze sur la poursuite. Eh bien, on a appris aujourd'hui, donc à 30 ans, vous savez que c'est un grand passionné de vélo. Il va rejoindre l'équipe cycliste Décathlon CMA-CGM. CMA-CGM, je rappelle, est propriétaire du groupe Média RMC-BFM. Hein, c'est nous, tout simplement. Eh bien, il va rejoindre donc l'équipe de développement de cette équipe. Donc, il sera pas dans l'équipe de Paul Sexas, mais dans l'équipe continentale, c'est-à-dire un deuxième échelon, pour 6 mois en tant que stagiaire durant l'intersaison, sans remettre en question en fait sa carrière en biathlon. C'est-à-dire qu'en fait, il va se tester en stage pour voir s'il est capable de faire quelque chose. Lui, qui est un fou de cyclisme, il va tenter l'aventure. Et cette équipe-là, donc, lui a tendu la main. On lui a posé la question, Julien Richard, en exclusivité pour RMC, pourquoi il a pris cette décision?
C'est un projet un peu fou, une idée, un rêve que j'ai depuis pas mal d'années. Mon rêve depuis tout petit, c'est d'être cycliste professionnel. Je sais que le chemin va être compliqué. Je pars de très loin. Le cyclisme est un sport très exigeant. Je ne pense pas que mon histoire avec le biathlon soit terminée. Les Jeux 2030, je l'ai dit et je le pense toujours, c'est un objectif. C'est une volonté que d'essayer d'être champion olympique en France, devant le public français. Cependant, je sais aussi que sur certains points, j'ai pu atteindre d'atteindre mes limites dans le biathlon. Et ce challenge-là, il me passionne, il me donne envie de me dépasser au quotidien. Et je pense que j'ai besoin de ça aujourd'hui dans ma carrière d'athlète et en tant qu'homme.
Il a besoin de ça, voilà, le biathlète qui veut aussi être cycliste. Franchement, c'est un défi complètement fou, hein. C'est quand même assez rare dans le sport. Ça existe, hein. Mais d'aller tenter une aventure ailleurs.
Manodou.
Exactement, de
oui,
la natation au
monde. Exactement, il y a même Michael Jordan qui a fait aussi un petit tour par le baseball. Moi, je trouve ça fabuleux. Franchement, effectivement, ce sont des athlètes extrêmement complets qui ont des capacités physiques, bien évidemment, totalement hors normes. Mais lorsqu'on a une passion aussi importante pour un autre sport et que, comme il l'a dit, au bout d'un moment, bah, finalement, vous avez l'envie d'aller vous lancer d'autres défis. Moi, je trouve ça absolument fabuleux qu'il tente l'aventure et qu'il essaye. Au moins, il n'aura absolument aucun regret. Soit il voit que... il a la capacité de le faire et je pense qu'il va continuer. Soit éventuellement, il va s'apercevoir qu'il y a peut-être des qualités physiques qui lui manquent et on verra s'il prendra la décision de faire un travail spécifique ou de rester sur son sport, on va dire principal ou son sport premier en tout cas.
Ouais,
qui est le... Mais pour moi, je trouve ça vraiment fabuleux de pas se donner limite et de vouloir tout explorer. Encore une fois, lorsqu'on a des envies en tant que sportif et qu'on ressent une certaine lassitude dans son sport de prédilection qu'on a pratiqué pendant tant d'années, il faut surtout pas se dire, bah, finalement, je reste que dans une seule case, c'est que mon sport, je suis pas capable de faire autre chose. Et tu l'as dit, il y a eu des exemples. Alors après, chacun a son jugement pour savoir si c'est fructueux ou pas dans le résultat, mais en tout cas moi d'essayer, je trouve ça extraordinaire et je l'encourage totalement.
Voilà, c'est comme Cassandre Beaugrand, la championne olympique de triathlon qui veut aussi se mettre à l'athlétisme, faire les 10 km, faire des meetings en Diamond League notamment. Ben voilà, il y a c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. La judoka aussi, on a eu des judokas qui sont partis dans le rugby aussi chez les filles. Donc intéressant, on suivra cette aventure d'Emilien Jacquelin. Évidemment, l'interview l'intégralité à retrouver sur rmcsport.fr au micro de Julien Richard. Mais tout de suite, nos stars de la glace arrivent dans Bartoli Time.
RMC Bartoli à la folie.
Bartoli à la folie, pour ça, ce que vous écoutez, un programme envoûtant, ensorcelant, même si on l'a déjà vu plusieurs fois, on s'en lasse pas, sur la musique du film The Whale, le chef-d'œuvre de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, champion du monde hier soir à Prague, en danse sur glace, un mois après leur titre olympique. Ah, moi, ça me donne des frissons à chaque fois que j'entends cette chanson-là.
Ah oui.
Je pense plus au film. Je les vois sur la glace. Voilà, je les vois sur la glace.
Exactement.
Ils sont tous les deux des invités exceptionnels dans Bartoli Time. Marion, je te laisse les accueillir.
Absolument, Georges. Quel bonheur immense de vous avoir avec nous, de très grands champions, Guillaume et Laurence. Ça y est, vous l'avez fait. Félicitations à vous. Alors, pour vous donner...
Merci.
Coulisses de cette émission, je suis à Miami, je vous ai suivi hier soir en direct sur la NBC et les commentateurs étaient dithyrambiques sur vos éléments techniques, sur la difficulté de votre programme et puis bien sûr sur la note finale. Donc tout d'abord, un immense bravo.
Merci beaucoup.
Alors vous avez tout gagné cette année, c'est absolument historique, ce quadruplé, le titre national, le titre européen, le titre olympique et ça y est le titre mondial. Alors cet exploit a été réalisé qu'une seule fois auparavant par les Britanniques Gentle Will et Christopher Dean, c'était en 1984. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en direct sur RMC, qu'est-ce que vous ressentez actuellement, les premières impressions, est-ce que vous êtes vidé parce que c'est la fin d'une saison et que vous avez tout donné pendant tous ces instants ou c'est aussi un bonheur et une joie absolument immense?
Mais écoutez, on a vécu un très beau moment hier sur la glace et on a vécu deux très beaux moments cette semaine au championnat du monde. On a eu une très belle saison, puis on en a profité au maximum. C'était vraiment un moment magique qu'on a vécu avec la foule, le public, puis on est extrêmement contents de tout le chemin qu'on a parcouru puis de tous les exploits qu'on a fait cette saison.
Alors, Guillaume et Laurence, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve d'enfant lorsque j'ai remporté Wimbledon et j'ai eu l'impression que le jour d'après, j'avais deux sentiments qui s'interchangeaient. Le premier, c'était que j'y croyais pas vraiment, donc il fallait que je regarde le trophée pour être sûr que j'avais gagné. Et le deuxième, c'était le sentiment d'avoir réalisé le rêve d'une vie. Pour vous, là, le sentiment le jour d'après, c'est quoi? C'est le soulagement, c'est la fierté d'avoir réussi à absolument tout gagner après seulement un an de collaboration ensemble?
Je pense que comme vous le dites, c'est un mélange de plein d'émotions. Il y a évidemment beaucoup de fierté. On est super heureux et satisfait de réaliser qu'on a atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés il y a un an, des objectifs qui nous paraissaient un peu fous et de voir qu'on y est arrivé, ça nous remplit de joie. Je pense qu'il y a aussi un tout petit sentiment de nostalgie parce que voilà, on a pris tellement de plaisir à patiner ces deux programmes et on leur a dit au revoir cette semaine à Prague, mais voilà, avec des petites des petites larmes de bonheur.
On est avec Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry dans Bartoli Time sur RMC. Alors Guillaume et Laurence, justement, moi c'est justement là où je voulais en venir. Sur ce programme, notamment celui que vous avez fait hier là, sur la musique de The Whale qui a ému tout le monde, c'était votre dernière hier. C'est vrai que moi j'aimerais savoir à quel point on s'attache à un programme en fait, à ce que vous faites. Est-ce que parfois on le déteste à force de le répéter ou est-ce qu'on s'en défait facilement aussi, ou est-ce que c'est un crève-cœur? C'est un peu comme un enfant pour vous, ce programme. Je sais pas, c'est quoi le rapport qu'on a à ça en fait? Il y a un truc charnel, j'imagine.
Oui, ben c'est un peu comme notre bébé. On a toujours des relations différentes pour chaque programme. C'est certain que le programme libre, il porte une très belle place dans notre cœur. Donc on avait une petite pointe de nostalgie à l'exécuter une dernière fois, à le performer une dernière fois. Mais on était très contents de comment on l'a fait et de ce qu'on a ressenti du début jusqu'à la fin. C'était un petit au revoir, mais on espère avoir la chance justement de le refaire en gala. Peut-être pas en compétition, mais en gala, parce que c'est un programme qui nous a fait vivre toute la saison. Puis c'est un programme qui a fait en sorte qu'on a réussi à se redécouvrir l'un l'autre et ensemble.
Moi, j'aimerais savoir, Guillaume, à quel point il fait partie de votre vie au quotidien pendant plus d'un an, ce titre, par exemple, celui de The Whale. Vous l'écoutez combien de fois en pensant à exactement ce que vous allez faire à ce moment-là, combien de fois en pensant à l'émotion que vous voulez mettre dans ce moment-là, à quel point il fait partie de votre vie?
Ben, je crois qu'on n'a même pas compté le nombre de fois qu'on a écouté cette musique. On l'écoute tous les jours à l'entraînement de multiples fois, puis on fait aussi beaucoup de préparation mentale. Mais ce qui est surprenant avec cette musique, c'est que je pense qu'elle nous émeut encore, elle arrive à nous tirer les larmes, juste en l'écoutant encore un an après l'avoir écouté presque tous les jours. Il y a vraiment quelque chose de très très particulier, on a vraiment connecté avec ces morceaux, cet album de Rob Simonson.
Non mais non, en fait, ce qui est fou, c'est que je pense que tout le monde sent, et avec Marion, je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait qu'on sent que vous connectez, et c'est pour ça que ce programme, même si on le voit plusieurs fois, on continue d'être ému différemment.
Non, mais il y a une poésie.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire que
il y a une poésie qui est incroyable, mais... qui est incroyable quand ils patinent ensemble. Non, mais... c'est ça, je pense, qui arrive à provoquer cette émotion au niveau des juges, même au niveau des spectateurs, parce que hier à Prague, les gens étaient totalement époustouflés. Moi, je vous en parlais, les commentateurs sur NBC étaient dithyrambiques. En fait, il y a une poésie qui se dégage à la fois de votre musique et puis de la façon dont vous patinez, qui est totalement exceptionnelle.
Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous débutez, les amis? Parce que il y a toujours un gros plan sur vous, sur toi, Laurence, au tout début notamment. On a l'impression que ton visage est complètement différent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a comme une dissociation dans ce moment-là. Vous êtes vos personnages, vous êtes l'émotion que vous avez envie d'incarner. Qui êtes-vous dans ces moments-là, en fait, dans ces quelques minutes?
Je crois qu'on rentre vraiment dans notre bulle et on entre dans un nouveau monde, dans un nouvel univers. Puis cet univers-là est très solide et un peu, je dirais, il est un peu intangible, mais on rentre vraiment dans notre personnage. Mais je dirais pas que c'est nécessairement un personnage, mais une émotion. Donc, en débutant le programme, quand la musique, sur la première note de musique, on rentre à fond et on se connecte l'un et l'autre. Donc, c'est un sentiment qui est indescriptible. Puis la foule ici à Prague c'était une extrêmement belle foule. Il y avait une audience qui est très, très unique. Il y avait le stade était complet. Donc, ça nous a aidé à vraiment délivrer la performance puis avoir un échange d'énergie avec tous les spectateurs.
On est en transe avec vous en fait. Hein. Je pense que c'est pour ça que ça marche autant sur cette séquence-là qui est absolument dingue. On est avec Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron dans Bartoli Time, champion du monde après avoir été champion olympique, après avoir été champion d'Europe, après avoir été champion de tout.
Oui.
Marion.
Alors si tu me le permets, Georges, avant d'enchaîner sur la prochaine question, j'aimerais rappeler aussi le score que Guillaume et Laurence sont arrivés à obtenir hier, parce que ça a été aussi un record. Ils ont eu 138,07, et pour vous donner un contexte de l'incroyable performance que ça représente, seul Madison Chock et Evan Bates avaient obtenu 138,41, qui est le record historique. Donc ça vous démontre aussi à quel point ils ont été capables hier de patiner de manière totalement exceptionnelle. Guillaume et Laurence, c'est jamais facile de se projeter sur l'après. Je pense que depuis les Jeux Olympiques, on vous en parle beaucoup. Est-ce que vous avez eu le temps de vous poser pour envisager le futur, ou pour l'instant, vous n'avez pas commencé cette réflexion?
J'avoue qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se poser pour penser à la suite. On avait aussi en fait vraiment envie, je pense, de rester dans l'instant présent, puis de profiter à fond de ce qu'on était en train de vivre, sans essayer de trop se projeter. Puis je pense qu'on, c'est ça, on a prévu de prendre des vacances et de voir quelles envies on va avoir, quelle motivation, quel challenge on va se fixer pour le futur.
Marion.
Alors Guillaume, tu as déclaré quelque chose de très poétique et de magnifique. Tu as dit les deux étoiles destinées à briller dans un même ciel, en parlant de ce duo que vous formez sur la glace. Est-ce que là, il y a un besoin de couper, de plus penser du tout au patinage? Est-ce que vous redoutez que cette euphorie qui a accompagné tous vos succès retombe d'un coup, ou vous n'êtes pas dans ce système de pensée?
Non, je pense qu'on a l'habitude un petit peu de... Comment dire? De ces montagnes russes, d'émotions... On sait plus ou moins comment les gérer. Puis je pense que on prend beaucoup de plaisir à célébrer ces victoires-là ensemble. Non, je pense qu'on n'a pas nécessairement peur de la suite. C'est plutôt, je pense qu'on réalise à peine ce qu'on a fait cette année, et c'était tellement une surprise et un petit peu un bonus pour nous qu'on n'en a pas vraiment pensé plus loin. Mais je pense qu'il y a plein de belles choses qui le futur nous réserve plein de belles surprises.
Guillaume et Laurence, bon, c'est vrai que là on est en train de faire une interview. Franchement, vous en avez donné peut-être des centaines des interviews depuis le début de votre défi olympique, et surtout depuis votre titre. On vous bombarde de questions sur ce que vous ressentez, ce que vous allez faire après. Vous répétez que vous vous donnez le temps de la réflexion, mais est-ce que vous avez vraiment vous personnellement, dans votre intimité, eu un moment pour vous poser avec vous-même et vous dire qu'est-ce qu'on a fait, en fait, vraiment avec vous?
Je crois qu'on n'a pas eu le temps encore de le faire. Donc, c'est je crois que la prochaine semaine et puis les prochaines semaines vont nous permettre d'avoir un peu de temps pour souffler, puis réaliser à 100% qu'est-ce qu'on a accompli cette année. C'est pour ça qu'on veut prendre un petit moment pour réaliser ça, puis aussi célébrer avec toute notre équipe. Donc, on croit que c'est important de le faire suite à une aussi grosse saison. On va voir où est-ce qu'on veut repartir par la suite.
Marion, dernière question.
Guillaume, tu as parlé de vacances dans une de tes réponses précédentes. Vous n'allez quand même pas partir en vacances ensemble, ou si?
Sur la musique de The Whale.
Oui.
Pour oui, on part en vacances ensemble.
C'est vrai?
C'est vrai?
Oui, on se quitte plus. Oui, mais c'est ça. On part en vacances demain, ensemble.
Non, mais c'est juste tous les deux.
Ça fait combien de temps pour couper?
Oui, on va skier, en fait.
Attends, mais c'est...
Je pense que faire une activité physique, ça nous permet de décrocher sans trop avoir ce gros down après une saison comme ça, parce qu'on est tellement habitué à faire 5 heures de sport par jour que quand on s'arrête, il y a comme une déprime un peu physiologique qui arrive. Donc de faire une activité, ça aide à passer à travers.
Ah, mais tu vois, genre, je te le dis toujours, fais une activité.
J'ai pas du tout envie d'aller au ski avec toi, Marion, je te le dis direct. non mais c'est intéressant ce que vous dites, Guillaume. Laurence, peut-être, vous avez, il y a une besoin de déconnexion ensemble, peut-être aussi, que cette redescente, elle soit ensemble.
Une déconnexion ensemble, non?
C'est-à-dire partir en vacances, ouais. oui, non,
oui,
mais...
Oui, donc on part en vacances, mais on est... On est amis depuis très longtemps.
Bien sûr.
Donc pour nous, même faire des compétitions, c'est un peu partir dans d'autres pays ensemble. Puis je dirais pas que c'est des vacances, parce qu'on performe, on a la pression et tout, mais on en profite, puis on apprécie vraiment de passer tous ces moments-là ensemble.
Bon, bah, profitez, je pense que c'est le mot, hein, Marion, pour terminer.
Et puis surtout, continuez de briller, nous faire rêver comme vous l'avez fait. Encore félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Ce sont des exploits absolument historiques.
Merci.
Et immenses. Et puis je sais que pour toi, Laurent, c'était ton premier titre, ton premier sac planétaire à 33 ans. Donc un immense bravo du fond du cœur.
Merci beaucoup Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, donc nos champions du monde après avoir été champion olympique il y a un mois. Donc voilà, hein, les champions sont évidemment dans Bartoli Time comme d'habitude. Merci Marion. Tout de suite on va filer à Washington. Rendez-vous avec l'After Live pour le match de préparation début à la Coupe du Monde dans 3 mois. Un match amical Colombie-France, coup d'envoi à 21h. Mais vous retrouvez Jean-Louis Tour et Florent Germain tout de suite dans un instant sur RMC. Merci à tous.